grosse.
Les quenouilles.
Les quenouilles.
Rebond.
Indépendance. Neuf. Indépendance.
Être vendre.
Savoir. Savoir.
Voix.
Parmi les 60 000 mots de la langue française, c'est celui-ci que tu as choisi de nous offrir, dictionnaire, pour ce premier mercredi d'octobre. Un mot qui rime avec vitamine, étamine. Alors même que toutes nos carences sont sur les starting blocks, prêtes à venir se lever sous nos aisselles, voyant venir l'hiver. Étamine. Étamine désigne une partie de l'appareil reproducteur que je me refuserais ici à appeler mâle. Quel drôle de mot à offrir aux quenouilles, étamine, alors que les fleurs ont depuis longtemps fané sous la chaleur de l'été, alors que la grisaille de l'automne s'étale dans toute sa splendeur mélancolique. Étamine, chère quenouille. Étamine désigne aussi une petite étoffe légère, nous dit le littré. Un tissu très peu serré de crin, de laine, de soie, qui sert notamment à filtrer les liquides. N'auriez-vous jamais pensé à appeler étamine votre sachet de thé ? C'est ainsi au moins qu'on appelle, toujours selon le littré, toute pièce d'étoffe qui sert à passer des liqueurs pour les filtrer. La liqueur dont tu parles, cher littré, est-elle douce ou amère ? Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir ajouté que passer par l'étamine, c'est être examiné sévèrement, être soumis à des épreuves. Voilà qui me semble bien répondre cette fois à ce que le monde en ce 5 octobre 2022 nous propose. Le monde nous examine et nous soumet à l'examen de nos dilemmes entre self-help, sauf qui peut, et prendre soin. Entre l'espoir et l'affliction, entre nos invisibles et pourtant nécessaires résistances de pollinisatrices et l'ouragan de nos colères dont les vents activent sur nos champs de bataille des moulins déjà à moitié détruits par les bombes. C'est mercredi soir. Le premier mercredi soir du mois. Les cloches de Saint-Josse ont sonné 19h et vous écoutez Les Quenouilles sur Radio Panique. Le monde va mal, certaines quenouilles aussi, mais pas toutes. On est ici, on se sourit et le temps d'une heure, on vous invite au temps des fleurs.
J'ai passé des nuits sans lune.
chère chez la taverne dans mon cœur. Tout comme autant de fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait le lendemain avait un goût de miel. Ton bras prenait
Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir les quenouilles. On est ici en studio à Radio Panique avec Quenouille Roxane, Quenouille Gaëlle, Quenouille Blister, Quenouille Valentine, moi-même et nos invités Valérie et Oscar qu'on vous présentera tout à l'heure. C'était donc Dalida, peut-être que tout le monde l'a reconnue, j'espère, avec le temps des fleurs. Et on laisse la parole à Quenouille Roxane pour sa version d'Étamine.
Alors moi, l'Étamine, ça m'a tout de suite fait penser à Virginia Woolf. Et je suis partie dans une rêverie sur l'érotisme du butinage chez Virginia Woolf. Bon, j'ai pas retrouvé l'extrait, je suis désolée. Je sais plus où j'ai lu ça, mais ça m'a vraiment marquée au point que je ne sais plus voir des abeilles sur des fleurs sans être effleurée par la question de la sexualité chez Virginia Woolf. Bon, alors c'est vrai que, après maintenant en y pensant, je me dis oui, c'est vrai qu'il y a ce mouvement de va-et-vient de l'abdomen sur la corolle épanouie. Bon, ce n'est pas sans évoquer l'acte de deux amants se frottant l'un à l'autre. Bon. Mais dans mon souvenir, pour Virginia, c'était davantage le bourdonnement même de l'abeille qui gonflait l'air comme une bouffée de désir ou de plaisir, comme si la chaleur de l'été se matérialisait dans le bruissement des insectes volant autour d'elle, que j'imagine en Danaé se pâmant. Enfin, bon, alors je n'ai pas l'extrait, donc peut-être c'est complètement mon imagination qui s'est emballée. Et puis évidemment, c'est d'autant plus fort que la sexualité chez Virginia Woolf, c'est tout un sujet que je connais mal, mais qui, voilà, je sais qu'on l'a soupçonnée de frigidité, voilà, elle a l'air d'avoir eu des amours lesbiennes, enfin, voilà, tout ça est assez sulfureux pour l'époque, quand même, presque encore victorienne, enfin bref. Donc, cette histoire d'abeille, voilà, ça me revenait tout le temps quand je pensais à cette histoire d'étamine, je me suis dit, bon, allons-y. Et du coup, en dérivant, j'en suis arrivée à me dire, bon, ben, en fait, quand même, ces fleurs-là, soumises aux assauts des insectes pollinisateurs, elles ont l'air assez passives. Bon, après, en même temps, je me suis rappelé qu'en effet, l'étamine étant la partie de l'appareil reproductif dit mâle. Alors, les abeilles, si elles évoquent aussi le viril, alors là, on est complètement dans une histoire d'homosexuel. Bref, je me suis tout emmêlée. Et puis, de toute façon, je crois que dans le règne végétal, comme tu disais dans ton intro, les genres, franchement, je crois qu'ils s'en calent assez. Les fleurs étant souvent hermaphrodites, à ce que j'ai compris. Donc, bon, pour quand même citer Virginia Woolf, parce que j'avais quand même envie de lui donner un tout petit peu la parole, quand même une grande figure de mon matrimoine personnel, quelques lignes. Je regarde la plate-bande de fleurs près de la porte. Tout y est, me dis-je, en regardant une plante avec un bouquet de feuilles. Il me sembla soudain évident que la fleur en soi faisait partie de la terre. Un cercle entourait ce qui était la fleur, moitié terre et moitié fleur. C'était la vraie fleur. Et voilà que moi, en lisant ça, tout à coup, il y a Emmanuel Ecoja qui débarque dans ma rêverie, lui qui a écrit donc La vie des plantes. Et comme dans ce cercle décrit par Virginia, j'ai adoré quand j'ai découvert sa pensée dans un podcast, parce que le livre, j'ai pas réussi à le lire. Mais quand il replaçait comme ça le vivant en relation avec son milieu dans une vision qui relie plutôt que séparée. Et donc lui, il explique que dans l'évolution de la vie sur Terre, il y a ce fameux moment où la vie est sortie de l'eau, entre autres parce que les plantes ont permis ça par la production d'oxygène via la photosynthèse. Et donc elles ont donné l'atmosphère, cette couche autour de la Terre là, qui allait ouvrir la voie aux êtres respirants comme nous. Donc c'est grâce aux plantes quand même qu'on est là, merci les plantes. J'aime bien le répéter. Et alors, j'adorerais qu'ils disent que finalement, la vie, elle n'est pas passée d'une vie dans l'eau à une vie sur Terre, mais d'une vie dans l'eau à une vie dans l'air. Donc, on ne passait pas à du sur qui écrase, mais bien un dans. On restait dans du dans. J'aimais bien ça. Ce truc qui englobe ou ça circule du dedans au dehors via la respiration avec l'extérieur et l'intérieur qui tricote dans une complexité plutôt que dans une domination. Donc voilà, comment de l'étamine à la reliance, voilà, j'ai fait un voyage où l'éros, finalement, bah, était cette espèce de force de vie, quoi.
Arrivé à maturité, l'anthère s'ouvre et libère les grains de pollen. Transportés en général par le vent ou par des insectes, ils peuvent alors rejoindre l'appareil reproducteur féminin d'une autre fleur.
On vient d'entendre Quenouille Blister et sa proposition de crawl sonore étaminé. Et là, je suis vraiment ravie d'accueillir dans le studio, du coup, Oscar Casamayor et Valérie Mayonne. Voilà, bonsoir. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, fin septembre, dans un festival organisé par le CIFAS qui proposait 3 journées de réflexion sur la ville, l'espace public, l'art et comment est-ce que cet espace public voyageait en ville et dans ses entours. Et donc, du coup, quelles étaient les pratiques qui se développaient, notamment autour des jardins. Et donc, on s'est rencontrés dans un jardin, le jardin de Année de Rovermbeek, du début des haricots. Et je vous ai entendu présenter votre projet, qui s'appelle donc Back to Soil Basics. Et du coup, peut-être pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous aimeriez dire à travers ces mots-là?
Back to Soil Basics, donc c'est le nom de notre projet qu'on a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est encore en évolution. Et en gros, c'était vraiment pour appuyer le fait qu'on veut retourner à la Terre. Donc il y a plusieurs buts dans ce projet de permaculture, mais vraiment... Le but premier, c'est de retourner à la terre, que ce soit au sol, mais aussi à notre nature intérieure. Pour nous, c'est super, super important de lier la culture dans la nature, mais aussi dans la culture intérieure.
Et peut-être aussi pour ajouter ce truc de basic, c'est aussi l'idée que c'est des outils simples qu'on essaie de partager pour cet retour aux terres, que ça ne doit pas aller trop dans la complexité des choses, mais vraiment genre... très cash, très simple, qui est aussi la terre, je crois, ou le... Ben, c'est pas très simple en tout court, mais c'est très simple en même temps.
Et est-ce que vous auriez 5 mots-clés pour définir votre projet ? Ou c'est une question trop compliquée ?
Moi, j'ai noté quelques mots.
Ah, chouette. Dis-moi.
Je crois que c'est une network, genre un réseau du gens, un réseau de nature aussi, un réseau de plantes, un réseau d'apprentissage. Il y a résilience, ça donne la force, ça donne d'être ensemble. Il y a le mot appropriation ou réappropriation. Plus d'explications peut-être sur ça plus tard. Mm-hmm. On a abondance. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser pour la nature, qui serait le 5e mot. Mais je trouve que voilà, dès qu'on comprend la nature vraiment, il y a tout ce qu'on a besoin toujours autour de nous. Et pour ça, cette mot abondance, si on arrive à parler vraiment avec la nature, il n'y a rien qui doive nous manquer, quoi.
Super. Et donc, du coup, tu disais un jeune projet. Ça a commencé quand ?
Donc, de base, c'était Oscar qui est à la base du projet, qui a commencé du coup en janvier. Quand, en gros, on a eu l'espace où on a pu commencer notre petit jardin. Donc à Korenbeek, qui est géré par l'association Toustand.
Mmh. Et cet espace, qu'est-ce que c'est ?
Donc en gros, Toustand gère des occupations légales. Mmh. Donc Korenbeek est une ancienne école maternelle qui est maintenant convertie dans un espace ouvert pour le quartier où on accueille vraiment pas mal de la SBL et pas mal de projets, dont Back to Soil Basics. Donc nous, on s'occupe de la cour de récréation pour la convertir en jardin de permaculture partagée avec toutes les personnes qui seraient intéressées par justement la réappropriation des terres.
Et toutes les personnes, c'est qui ?
Alors, notre projet se focalise sur les gens de couleur, les minorités qui habitent à Bruxelles et étant Oscar et moi des personnes minoritaires également. On veut vraiment se focaliser sur les gens qui nous ressemblent et c'est clairement notre but. Donc moi, je suis herboriste. Enfin, avant même de connaître Oscar, j'ai emprunté cette voie et je m'étais toujours dit que c'était pour redonner mes savoirs aux autres qui en avaient le plus besoin. Parce que malheureusement, c'est maintenant un savoir qui doit être appris. Enfin, on doit acheter ce savoir, alors que de base, nos ancêtres n'achetaient pas ce savoir. On vivait avec la nature, dans la nature.
C'était une transmission aussi généalogique, non ? Il y avait...
Oui. Oui, par exemple, ma grand-mère vient du Venezuela et c'était une indigène qui vivait dans la forêt amazonienne et qui était guérisseuse là-bas, qui avait son jardin et qui guérissait seulement par les plantes et par la magie.
Mmh. Et par rapport aux personnes, du coup, comment est-ce qu'elles viennent jusqu'à vous? Comment vous entrez en relation avec elles pour les amener au jardin?
Bah, ça, c'est tout un travail de communication, je crois, de toute façon. Mais je crois que oui, bah, vu que voilà, notre focus sera vraiment aussi à réapproprier cet espace vert, on va vraiment chercher des autres organisations qui ont déjà un réseau là-dedans. On appartient d'une communauté déjà. Et dans la selle, c'est un peu chercher aussi les gens qui sont vraiment intéressés par la nature. Et après, comme je disais, ça marche aussi un peu comme l'abondance, quoi. Dès que tu commences à faire un travail sincère et vrai, où aussi il y a un gros besoin, parce que voilà, je crois que même dans tous les espaces qui se osent dire permaculture, il reste toujours une monoculture de genre de gens, de couleur de peau ou de classe. Alors c'est très monoculturel dans ce cas-là. Et c'est dans cette optique-là qu'on a commencé le projet, de vraiment dire voilà, comment on fait créer cet espace et commencer voilà, avec les potes, des associations qui sont déjà là. Ça, c'est cool aussi au Corumbé, qu'il y a déjà beaucoup de partenaires qui passent là-bas. Alors, c'est genre aider aussi que tu mettes une peau de plante quelque part et tu mettras toi-même à côté de ça dans la ville. Tu as 1000 personnes qui viennent te parler, qui viennent te dire c'est ce qu'ils ont vécu avec les plantes ou comment son grand-mère ou son grand-père utilisait ça pour ci ou ça. Alors, ça va très vite, en fait, parce qu'on est, en fait, à la base, on ne doit pas vraiment faire un travail pour retourner aux terres parce qu'on est sur la terre et c'est juste plutôt regrouper les gens autour de ça.
Mmh. Et qu'est-ce qui vous marque particulièrement dans cette aventure? Qu'est-ce qui la rend fertile? Comment est-ce que vous voyez ces développements? Tu viens de dire hein, que c'était aussi quelque chose qui s'auto-générait, qui se développe de soi-même. Mais est-ce que vous avez des désirs? Est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent dans ce qui se passe, qui vous donnent voilà, des perspectives concrètes, des choses que vous avez envie de plus développer encore?
Mais d'abord, voilà, ça part en fait de mettre une révolution en place, de vouloir en fait créer des espaces. Mmh. Alors c'est genre, moi par exemple, j'ai fait une étude sur la permaculture, mais après tu te rends compte que genre, ah oui, on n'a même pas vraiment un terrain pour pratiquer ça, quoi. De nouveau, ces trucs de classe. Alors c'est un peu cette idée de genre, ah oui, voilà, moi je sens que voilà, dès que tu commences à commencer à comprendre quelques plantes, peu à peu, ça s'augmente de plus en plus. T'as genre, tu sens vraiment ce pouvoir de cette network qui met des nouvelles gens autour de toi, mais je crois que ben, on est vraiment à une stade, c'est plutôt aussi genre, ouais, comment on a obtenu vraiment en fait des espaces, et ça ouais, le Corumbé, c'est un chouette espace, il y a déjà quelques bouts de terre vides, mais il faut commencer à débétoniser, et c'est ça un peu l'idée que genre, ah ouais, ok, c'est où exactement nos espaces dans la ville qu'on puisse utiliser avant qu'on pourra dire genre, ah ouais, c'est ça qui nous met en place. Après voilà, il y a des choses comme ouais, tous les gens qui passent. Ça fait toujours chaleur au cœur. On fait ça le dimanche. Bah, pour nous, c'est comme un travail. Mais après, ça reste aussi genre un travail à laquelle que tu donnes et tu reçois de l'énergie de retour, quoi. Pour donner un exemple, on a planté, j'ai planté un jardin chez quelqu'un, mais aussi là-bas, on a planté des arbres. Et j'étais crevé parce que j'avais mon autre travail. J'avais travaillé de 3 semaines, disons 7 jours la semaine. Mais au final, je suis allé dormir et je sentais qu'en fait, toutes les racines, ils faisaient tout le travail pour moi après, quoi. Tu vois, c'est un peu ce truc de genre, tu sens en fait, bah, ce truc d'abondance, genre, dès que tu mets les choses en place, normalement, si personne vient te la voler ou si personne vient te changer ton opinion sur ça avec tout le média qui est là, ça reste quand même vivante, quoi. Et c'est ça qui fait plaisir, que tu peux être hyper fatigué. Mais tu sais que voilà, au moins les arbres sont d'ordre de mettre leurs racines plus profond.
Est-ce qu'il y a des questions qui se posent, des moments où voilà, des choses qui sont moins faciles, des questions qui vous apparaissent dans les rencontres? Tu disais ça marche pour autant qu'on ne soit pas volé, ça marche pour autant que. Est-ce qu'il y a des endroits où ça fait nœud?
Ben, je crois qu'un des endroits, ben, pas que ça fait nœud, mais je crois que le cherche de ce projet, c'est vraiment aussi voilà, comment mettre permaculture ou les idées de permaculture qui sont déjà aussi juste un regroupement de, des informations des indigènes, comment rendre ça accessible de nouveau par la parole. Alors, je crois qu'on est toujours en dehors de nous mettre nous-mêmes sur la place de genre, ah oui, ok, est-ce que c'était accessible? Est-ce que c'était de nouveau théorique ou est-ce que c'est un truc que tout le monde puisse utiliser? Je crois que ça, c'est la plus grosse nœud si tu veux dire, voilà, on va travailler avec des minorités, ça veut aussi souvent dire que, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore lire ou qui sait. Et c'est un peu dans ce sens-là, OK, comment on puisse avoir un groupe hyper divers et garder quand même une circulation d'informations où tout le monde se sente accueilli et aussi important là-dedans. Voilà, je crois que c'est, je ne dirais pas une nœud, mais plutôt un truc qu'on est en dehors de travailler tout le temps pour, en fait, pouvoir... pour ne pas avoir ces nœuds de dynamique, d'hierarchie. Mmh. Ou,
c'est plus une vigilance, un point d'attention, quelque chose auquel vous prêtez attention.
Oui.
Pour que ça reste fluide et que ça reste accueillant comme projet.
Oui.
Il y a, que nous, Valentine, qui a une question.
J'ai une question par rapport à ce que tu dis, que je trouve très intéressant sur cette idée de l'accès, de la communication. Est-ce que vous avez des exemples de choses concrètes que vous avez mis en place qui pourraient être inspirées justement, qu'est-ce que, par rapport à Sonola, est-ce qu'il y a des solutions, des choses parfois très petites ou très concrètes que vous avez expérimentées?
Déjà, le projet il est porté du coup par Oscar et moi qui sommes des personnes minoritaires. Moi, je suis une personne à mobilité réduite. Donc déjà, l'espace qu'on va construire, ce sera d'office accessible pour les personnes à mobilité réduite d'office. Et pour nous, c'est super important aussi, vu que Corenbeek accueille déjà beaucoup de jeunes enfants et aussi des jeunes mamans qui parlent pas français, ou vraiment de plein de gens qui viennent avec leurs poussettes, etc. etc. Pour nous, c'est vraiment primordial que dans le design du jardin qu'on va créer, il y ait déjà toutes les clés pour que ce soit accessible autant pour les enfants que ce soit en même temps un sort de terrain de jeu qu'ils aiment découvrir et qu'ils aiment passer du temps dedans, mais aussi du coup niveau accessibilité, que ce soit pour les poussettes ou pour les personnes à mobilité réduite. Pour nous, c'est super important de penser rien que pour eux. Et
Oui, peut-être aussi, genre le open schooling, c'est aussi un outil, je trouve. Si on est dans un groupe, on imagine on se rejoint cette fois-là. La prochaine fois, on dit genre, ah ouais, est-ce que toi, tu veux expliquer un truc que toi, tu connais déjà? Et ça doit, de temps en temps, ça doit même pas être autour de la nature, mais juste pour dire genre, ok, voilà, tout le monde, en fait, a un point d'information à donner dans l'espace du groupe.
Et l'espace, il est ouvert tout le temps ou c'est un... Il y a des horaires, enfin, tu disais le jardin, est-ce que c'est...
Oui, donc Corenbeek, donc ils ont des permanences les mercredis et les vendredis. Mais nous, du coup, on emprunte l'espace que les dimanches. Oui, il est ouvert toutes les semaines, mais ça, c'est quand c'est géré par les personnes qui travaillent pour Toustand. Nous, c'est à part de quand c'est ouvert, mais ça reste ouvert. Donc, si le jardin est ouvert et que les gens veulent juste rester là en dehors de nos activités, c'est également possible, bien évidemment.
Oui, c'est pas fermé avec une porte ou des grilles ou je sais pas. Parce que des fois, j'ai remarqué ça, qu'il y a toujours cette ambivalence d'espace qui essaye d'être public, mais qu'il y a parfois des contraintes de fermeture d'horaire. Et je me demande si ça limite la possibilité de s'approprier un espace.
Oui, malheureusement, tu as des voisins, tu as des gens qui... heureusement que tu as des voisins, malheureusement, voilà, il y a toujours des trucs qui sont un peu durs. Mais de nouveau, je crois que dans ça, le pratique d'en fait faire... Parce que déjà, on essaie de faire notre design participatif, tu vois, ça veut dire aussi que les gens qui sont autour, ils sont aussi partis de ce projet. Alors, tu as une autre manière de dire, voilà, on met juste une parc, c'est nous qui la gèrent. Et après, voilà, bien sûr que les gens vont détruire le truc, mais dès que tu as toi-même planté un arbre, il y a un certain respect qui sort déjà de l'espace sans que, et de temps en temps, oui, on doit encore nettoyer des papiers. Ou... Mais ça, c'est...
ça fait partie.
Ça fait partie du ville, quoi.
Oui, et du vivant aussi.
Hein. Ouais.
Peut-être on peut enchaîner avec la musique que tu proposais, Oscar, Soudou Bem, de Nana Vasconcelos.
Tu veux dire quelque chose sur ce morceau que... Tu as proposé ou
pas grand chose. J'ai scrollé mon liking list et je crois que c'est ce qui me plaît beaucoup dans la musique de Latinamérique. C'est beaucoup que voilà, ça ben, même dans tout ce qui se passe, tout va toujours bien et ça me rend juste heureux. Hein, ils sont toujours.
Oui, ça représente vraiment la dynamique de notre projet.
Alors, tout à l'heure, dans les cinq mots que tu as donnés, Oscar, il y avait le mot réappropriation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez développer à ce propos-là, tous les deux?
Peut-être j'aimerais juste déjà commencer par une question, peut-être pour tous de nous dans ces sociétés, c'est peut-être aussi comment on puisse commencer si on a un projet, si on a un espace, si on a des bons amis, et regarder déjà autour de nous qui est là et qui n'est pas là. Je crois que ça, c'est une des premières choses qui me manque souvent dans la conversation ou dans juste n'importe quel projet qui se opte d'être genre bienveillante et pour le monde et tout ça, genre de juste regarder, ouvrir vos yeux et se mettre soi-même en auto-question là-dedans. Et après, voilà, c'est aussi même pour moi-même, tu vois, genre étant une personne racisée, quand on a la première fois vraiment planté dans le jardin, Je devrais retoucher mes yeux parce que j'avais jamais vu ça, quoi, tu vois, genre. Et c'est un peu, ça fait presque mal de savoir que voilà, autant être presque vers les 30 ans, de jamais avoir vu un chant avec presque que des personnes racisées à Belgique, à Bruxelles, où quand même, voilà, il y a une grosse minorité qui est beaucoup des gens.
Qui est très présente.
C'est plus une minorité. Et on peut dire ça, pas que sur les champs, parce que c'est ça aussi, genre, on peut voir ce problème dans les instituts, dans la policière, dans les écoles, dans tous ces espaces-là. Alors, ça ne reste pas juste avec la nature. Moi, je suis bien intéressé par la nature parce qu'il y a aussi un côté qui vient aussi avec tout qui est genre... ben, juste le bien-être pour soi déjà, tout aussi qui passe par, par comment on fait les choses qu'ici, ça devient un truc genre, ah oui, on puisse toucher à la terre et on peut mettre des carottes, mais à des autres espaces, ça devient un truc de genre, ah oui, là, on ne puisse plus mettre nos carottes, alors carottes, on doit devoir immigrer. Ou... Alors, il y a plein de problématiques qui rentrent autour de ça. Et c'est pour ça, genre, si je disais, ouais, les nœuds qu'on a vraiment, c'est aussi genre, ouais, c'est quoi un espace qu'on a vraiment? Souvent, je dis, je pense à ces trucs de genre, ah ouais, ben nous, on veut obtenir un champ ou un terrain ou un pays, disons, ou un paysage. Mais si c'est ça le truc qu'on était le plus volé de et qui est encore volé de beaucoup de gens, quoi, soit par la crise climatique, soit par la déforestation, soit... Alors, c'est un peu genre... dans cette idée de genre, ben, on veut réapproprier un espace, mais c'est un truc qui est encore un problème jusqu'à maintenant, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont déracinisés, il y a beaucoup de nature qui est prise, et en fait, même toute cette information est juste genre volée ou mise à côté. Alors, dans ça, c'est juste des petits pas à dire, genre, voilà, cette information appartient à nous, à tout le monde, et on a accès à, et on va la partager entre nous, et au final, tout va être bien.
Et toi, Valérie, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la réappropriation?
Pour moi, c'est super important qu'on se dise qu'on veut se réapproprier ces terres, parce que déjà, si j'avais été au courant qu'il y avait un genre de projet comme le nôtre à Bruxelles, j'aurais clairement été au courant, parce que je connais Bruxelles d'une manière super verte, étant herboriste et ayant fait du bénévolat dans plein de champs, dans limite tous les champs de Bruxelles, en fait. Mais je ne m'étais jamais sentie complètement à ma place, parce que c'était jamais... jamais quelqu'un de racisé est vraiment venu m'apprendre quelque chose à propos des plantes. Ça a toujours été un milieu quand même super... pas fermé, mais quand même super blanc. Et les seuls ouvriers noirs que j'ai rencontrés dans des champs, c'était dans des situations quand même assez compliquées avec la gestion du champ, etc. etc. Et du coup, je n'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui travaille sur un champ qui était racisé et qui était épanoui dans ce travail, alors que la connexion avec la nature est super importante. Et même eux pensaient que cette connexion avec la nature, ça les sauverait en quelque sorte d'un travail misérable.
Moi, je me pose une question quand on parle de réappropriation et du rapport. Toi, tu disais de planter les carottes et toi, tu disais de travailler les plantes et tout. Et je me disais, mais il y a aussi, c'est tout à fait différent, mais ça m'interroge sur l'idée de. Je pense qu'on se positionne dans une situation un peu anti-extractiviste, donc avec cette idée d'exploiter la terre. Donc, et en fait, évidemment, c'est des questions d'échelle, mais je m'interroge comme ça sur comment on peut sentir la différence entre un rapport utilitaire, entre guillemets, à la terre, dans cette idée d'appropriation, de planter, de cultiver, et un rapport qui est peut-être plus harmonieux ou plus équilibré et qui ne soit pas extractiviste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais la permaculture en soi, l'idée, c'est de ne pas être
extractiviste.
Ouais, ça.
Je me doute, mais du coup, est-ce que peut-être vous pouvez expliquer qu'est-ce qui fait la différence pour des gens qui ont pas du tout, qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est que la permaculture ou...
De temps en temps, c'est juste bien de te poser aussi la question, qu'est-ce que ce n'est pas la permaculture?
Oui, ou là, alors, c'est... Ouais,
là, c'est là on a toutes les autres choses qu'on est en dehors de faire. mais l'idée, c'est juste qu'en fait, on vit avec sans détruire, quoi, tu vois. Genre là, on est vraiment dans une société qui est genre contre, tu vois. Genre c'est être humain et contre la nature, quoi, tu vois. C'est toujours genre, c'est comme un gros conflit. Et en fait, là, la but que nos ancêtres nous ont appris, c'est un peu genre, on vit avec, on est tous partis d'eux. Quand je pensais à la mot qui est le mot d'aujourd'hui, c'est un peu aussi genre, c'est comme... et même les animaux, ils font la même chose dans ce truc que vous dites, le truc de passivité. C'est un peu genre, ouais, si je suis un animal, je ne suis pas forcément passif, mais je ne suis pas non plus actif ou agressif sur mon environnement. Quoi. Chaque animal, chaque plante, en fait, il est toujours en balance avec toutes ces choses autour, sauf l'être humain qui a un peu loupé son chemin. Et dans ça, je crois qu'il y a une bonne manière de faire en fait un paysage ou d'extraire de l'information, de la nourriture, de tout, mais tout c'est dans un cercle de redonner. Peut-être ça revient aussi à l'anneau qu'on a qui est aussi venu par une talk par Sadhguru qui parle vraiment genre en fait tout vient de terre et revient aux terres quoi. Et si on pense à ça quand on est en dehors de cultiver, ça fait qu'en fait tout ce qu'on cultive est possible de re-aller dans terre et repartir aussi. Et comme ça, il y a toujours assez pour tout le monde et on revient sur le cercle d'abondance. Très simple en fait, mais...
Mais un grand merci en tout cas. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de continuer à vous écouter. Mais voilà qu'on est au bout du temps. Alors, mais merci pour tout ce que vous avez dit. Ça merci donne très très envie d'aller vous voir sur la terre que vous cultivez avec d'autres.
Des containers européens remplis de pommes pour la Chine croisent dans l'océan Indien. Des containers chinois remplis de pommes pour l'Europe. Ah, ah, ah. De jeunes paysans africains
partent ruinés vers l'Europe pour cueillir des tomates qui sont envoyées en Afrique. Ah, ah, ah.
C'était l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp et le morceau Flux proposé ce soir par Quenouille Margot. Et on va laisser la parole à Quenouille Milady qui n'est pas là mais qui parle à travers la voix de Quenouille Gaëlle sur le naturalisme et le romantisme patriarcal.
Quenouille Milady, doctoresse rabat-joie, option mauvais foi, relie ce bon vieux Maurice Maeterlinck, l'auteur belge du piètre prix Nobel de littérature L'Oiseau Bleu, qui s'est autoproclamé scientifique naturaliste, en décryptant avec une liberté littéraire la vie des termites, la vie des abeilles et celle des fourmis. Oui, avant Bernard Werber. Il s'est aussi targué d'un précis ultra-romantique, néo-hétéronormalisant, dans l'ouvrage L'intelligence des fleurs. Certaines disent qu'en fait, c'est Marie Blanche Georgette Leblanc, la femme de Maurice, dont je parle plus tard, qui serait au moins l'inspiratrice, hashtag ni muse ni soumise, et selon les bruits de couloir des salons littéraires féminins dont Colette était l'initiatrice, aussi la co-autrice et la relectrice des ouvrages de Mo Maurice. Certains autres auteurs et l'époque ont encouragé Maurice dans cette qualification d'apoétique, sous prétexte que ces textes relèvent d'une observation dite scientifique et plus précisément de l'entomologie, à la manière de Jean-Henri Fabre, avec des arguments d'autorité qui étaient surtout basés sur des enjeux socio-économiques. De fait, la seule appartenance à des clubs sélects et sociétés secrètes masculines dorait le CV et la certification de brevet et l'obtention de prix s'organisait entre gentlemen. Hashtag effet Mathilda. Et les pratiques, telles la psychographie, le spiritisme et rituels d'intronisation souvent inspirés des explorations coloniales, réelles ou fantasmées, donnaient des ailes à ces hommes souvent lourdeaux. Maurice s'est livré à une exploration de ce qu'est la capacité d'intelligence des fleurs. « Nous verrons que la fleur, écrit-il, donne à l'homme un prodigieux exemple de l'insoumission, du courage, de persévérance et d'ingéniosité. » Ainsi évoque-t-il la capacité des fleurs à conquérir l'espace grâce au merveilleux système de dissémination, de propulsion, d'aviation que nous trouvons de toutes parts dans la forêt et dans la plaine. Et de donner à titre d'exemple la machine à planer du chardon, du pissenlit, du salsifis, les ressorts étonnants de l'euphorbe, l'extraordinaire poire à gicler de la momordique, sic, les crochets à laine des hériophiles. Au-delà de l'anthropomorphisme assez courant de cette époque, c'est aussi une stigmatisation des rôles femelles, oscillant entre la maman et la putain et les rôles mâles conquérants de la nature. Hashtag rengaine. Un autre ouvrage de Maurice, La sagesse et la destinée, oscillait déjà entre des enjeux dits de philosophie avec un ésotérisme maçonnique des plus belges, comme quand les bourgeois sont en quête de mystère, vu que tout leur est accessible et qu'ils vont puiser du mystère dans l'appropriation culturelle, naturaliste, extractiviste, industrielle. La possession du mystère tue le mystère, alors on réécrit le narratif et on explore, exploite plus encore, jamais satisfait, pourtant suffisant. Et, Maurice, écrit en plein état bourgeois, primé de surcroît, cet art de la séduction, du savoir-vivre, dans sa maison de maître, décrit chaque plante, entre pesanteur et désinvolture, d'une de ces plantes femmes réifiées au service de la matrice procréatrice naturaliste. De ces plantes femmes réifiées au service de la matrice procréatrice naturaliste, ces femmes plantes sont fécondées, où elles usent de stratagèmes sournois pour sélectionner, trier et parpiller selon la loi du plus fort et de la plus fourbe, voire elles meurent quand esselées. Ailleurs, il évoque les cérémonies nuptiales en usage dans nos jardins, en soulignant les idées ingénieuses de quelques fleurs très simples où les époux naissent, s'aiment et meurent dans la même corolle. Éloge du mariage à travers l'alliance subtile du pistil et de l'étamine, décrite dans les livres de sciences naturelles des années d'écolier du début du XXe siècle. Plus loin, il met l'accent sur les merveilleuses capacités d'adaptation des fleurs et réserve un sort particulier à l'orchidée, la fleur la plus intelligente selon lui. L'orchidée est celle qui l'emporte sur toutes dans l'art d'obliger l'abeille ou le papillon à faire exactement ce qu'elle désire dans la forme et le temps prescrit. Hashtag culture du viol ou presque, non ? Les exemples nombreux dans ce livre soulignent l'intelligence des fleurs. Des fleurs ? L'époque est aussi en effervescence industrielle en même temps que le courant symboliste et l'art nouveau et le naturalisme prennent à cœur de nommer la nature en relation. Soumission avec l'humain, ou plutôt voir l'humain dans la nature jusqu'à en oublier les principes non anthropogènes de la dite nature. Maurice écrit que la nature et nous, nous sommes du même monde, presque entre égaux, parce que nous frayons avec des volontés voilées et fraternelles qu'il s'agisse de surprendre et diriger. Ah, l'humanisme, l'universalisme, les grands moments d'envolée lyrique d'un avenir glorifié, fraternel, à sens unique et à verticalité sociale déjà violente, mais soit. Bref, sexisme, capitalisme, colonialisme, expansionnisme, la belle époque, non ? Rendons donc à César ce qui appartient à Cléopâtre, en faisant descendre Maurice de son pédestal nobilisé et en rendant fumage à Georgette. On vous invite, incite, à aller googliser sa bio complète, mais on peut retenir avec tri sélectif et développement durable que Georgette, lors d'un voyage aux États-Unis, rencontre Helen Keller, dont elle fait connaître l'extraordinaire histoire en Europe, en publiant entre 1912 et 1914 deux ouvrages en anglais. Georgette a quitté Materlinck, youpi, pour aller vivre l'amour et l'écriture dans un phare avec sa chérie, Margaret Anderson, aussi autrice et éditrice américaine, laquelle permettra la publication de Ulysse de James Joyce en feuilleton dans la revue The Little Review, siège de la revue presque incendiée suite au scandale littéraire. Georgette et Margaret furent membres cofondatrices de La Cordée, The Rope, un groupe saphique où de nombreuses autrices échangeront leurs pratiques d'écriture et s'auto-organiseront en dehors des rails masculinistes de l'édition française et états-unienne dans les années d'entre-deux-guerres mondiales. Georgette et Margaret sont enterrées ensemble au cimetière de Notre-Dame-des-Anges. Bye bye Maurice. Hello Georgette et Margaret. Non ?
Bien sûr que oui. Oh, un message de Quenouille Aliette.
Les quenouilles, voici un titre qui, pour moi, a la classe du lâcher-prise qui, bien souvent, n'en a pas. Victor Laszlo, qui l'interprète, me touche. Et sa chanson, c'est un peu l'étamine d'une époque. Bonne écoute.
C'était pas l'année dernière. C'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle ? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë. Rose, à deux places, qui flotterait comme ça, pour personne. Mmh. essaie de se glisser par le store vénitien. Et c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. Rose. À deux places. Il servira.
Voilà, l'émission touche à sa fin. On remercie vraiment vivement nos deux invités, Valérie Mayon et Oscar Casamayor, qui sont venus présenter leur projet Back to Soils Basics. Et peut-être, Oscar, tu avais un dernier mot pour terminer.
Oui, je voudrais juste tout le monde inviter de nous écrire, de demander des questions, de rentrer en communication avec nous. Après, je voudrais aussi accentuer ou demander de rester assertive à qui appartient ce projet. Et c'est vraiment notre focus, pas vraiment aux gens minoritaires. Mais dans ça, on est toujours trop content d'avoir des messages, de partager sur des idées. Mais voilà, l'espace en soi ou les moments de dimanche, là, on essaie de vraiment garder un certain focus.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi de nous inviter.
C'est la fin de l'émission. On rappelle que le podcast est en ligne dès demain et que l'émission sera rediffusée le samedi 15 octobre sur le 105.4 sur Radio Panique et que le prochain mot, le 2 novembre, sera la risée.
Les quenouilles,
les quenouilles.
Ils ont marché les pieds nus. J'ai goûté les mélodies qui me venaient aux oreilles. Et les anges avaient sommeil. C'est moi qui leur avais dit.